le temps de m'installer. Bonjour à tous. Et je nous propose de rester dans la continuité de cette première partie où nous avons chanté le Seigneur, nous nous sommes tournés vers lui en lisant des textes. Et je nous propose ce matin le partage d'un chant. Et ce chant, il est dans le livre des psaumes. C'est une prière de David à un moment très difficile de sa vie. Un moment où les choses ne s'améliorent pas pour David. Et David s'adresse à Dieu dans la prière. Je crois qu'en tant que chrétien, cela nous arrive de traverser des moments où les problèmes semblent persister, voire s'installer durablement. Pour beaucoup d'entre nous, nous essayons de continuer la vie avec cette situation-là. Et pour d'autres, ces souffrances deviennent tellement difficiles que chaque instant de la vie est très difficile. Et pour ces moments-là, où les choses semblent persister ou semblent rester durablement, Dieu nous a laissé dans sa parole plusieurs textes, dont les psaumes, desquels nous pouvons puiser des ressources. Et le psaume 86 que je nous propose ce matin est un exemple de ces ressources-là. Mais avant de se plonger dans la lecture de ce psaume 86, je vous propose d'essayer d'imaginer dans votre vie, dans votre instant de présent, des choses ou des situations pour vous qui ne s'améliorent pas, que vous voyez qui ne s'améliorent pas. Que voyez-vous? Vivez-vous des situations difficiles qui ne s'améliorent pas? Essayez d'en trouver, de voir. S'agit-il d'un conflit relationnel? S'agit-il d'une douleur physique ou émotionnelle? Maintenant que vous l'avez vu, ou peut-être pas du tout vu, posez-vous la question vers où ou vers qui vous vous tournez pour avoir une solution à vos difficultés, à votre souffrance. Est-ce que vous vous tournez vers le frigo ou vers le shopping pour faire le magasin? Ou encore, où est-ce que vous vous en prenez à vos enfants, à votre conjoint, à votre entourage? Ou est-ce que vous vous tournez vers des sites porno ou des sites illicites, des sites douteux de web? Ou est-ce que vous vous adonnez peut-être à l'alcool? Quelle est votre béquille? Par où essayez-vous de vous échapper dans vos difficultés du moment? Ou dans vos difficultés identifiées? Vous savez, tous, nous avons des difficultés. Et dans nos difficultés, nous nous tournons vers quelque chose ou vers quelqu'un. Surtout quand c'est difficile, la pression monte, ou quand la situation devient vraiment très difficile. Et ce vers quoi nous nous tournons dans ces moments-là nous dit ce à quoi nous croyons vraiment. Car c'est dans ces moments-là, c'est dans ces situations difficiles où les choses ne s'améliorent pas pour nous que nous mettons vraiment en pratique notre foi. Et c'est là que nous voyons notre croyance, notre foi en action. Si nous sommes honnêtes, je pense que souvent nous oublions de prier. Nous tournons vers les nombreuses solutions du monde que nous offre le monde et que nous trouvons à gauche et à droite. Nous oublions de nous tourner vers Dieu. Et des fois même, nous accusons Dieu. Nous l'évitons. Nous le fuyons pour rechercher la réponse en nous-mêmes. Tout cela parce que notre foi, notre obéissance à Dieu sont plus faible que nous l'imaginons, en tout cas comme nous le voyons en nous. Ces situations difficiles où les choses ne s'améliorent pas pour nous mettent vraiment à rude épreuve notre foi et notre obéissance à Dieu. La situation difficile pour David ici, dans le texte que nous allons lire du psaume 86, la situation difficile pour lui est que physiquement sa vie était menacée. Sa vie était menacée de mort. Et David s'adresse à Dieu dans la prière. Et cette prière de David, que je nous propose de lire ce matin, nous montre comment faire dans une situation difficile qui ne s'améliore pas pour nous. Et cette prière de David, pour moi, c'est un modèle d'action qui honore Dieu lorsque nous vivons des situations difficiles et qu'on a l'impression, pas l'impression, mais on le voit que ça ne s'améliore pas. Je nous invite à ouvrir vos Bibles. Si vous avez des Bibles, vous l'ouvrez. Je crois que ça donne des versions qui sont un tout petit peu différentes de celles que je vais projeter. Mais ouvrez vos Bibles et on va lire ensemble le psaume 86. Mais avant de lire ce psaume, je nous invite encore à prier. Oui, Dieu notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ce que tu nous enseignes et que tu veux encore nous enseigner ce matin au travers de ta parole. Oui, Père, nous te prions, ton Esprit Saint de nous convaincre du péché, de toucher nos cœurs et de transformer nos cœurs selon ta volonté. Aide-nous, Père, à demeurer dans ta lumière pour la gloire de ton nom. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 86 que nous dit ceci. Je vais essayer de le lire avec vous sur l'écran. David dit, « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi. » car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tout ce qui t'invoque. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur. Et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles. Ô Éternel. La première chose que me renvoie ce texte, c'est ce que j'ai essayé de mettre ici en une phrase, se tourner vers Dieu quand les choses ne s'améliorent pas, demande la persévérance dans la prière. C'est ce que qui m'est ressorti du verset 1 au verset 7. Vous est-il déjà arrivé de lire un texte et d'écouter une histoire et puis de vous dire ça ressemble à moi. Ça me ressemble. En tout cas, c'est quelque chose qui m'arrive souvent quand je lis certains livres de la Bible ou certains personnages, l'histoire de certains personnages de la Bible. Je me dis ça me ressemble. C'est Pierre. Et on est deux au moins. Il y a Virginie aussi, Pierre, Fanchon aussi. Voilà, il y a des personnages comme ça qui me disent, celui-là, il me ressemble. Le psaume aussi, je trouve aussi dans le livre des psaumes des comportements, la vie de David aussi, c'est quelque chose qui, des fois, je trouve des choses qui me ressemblent, mais en tout petit, quoi. Et je crois que c'est pour ça que le livre des psaumes, par exemple, on aime bien le lire, parce que on peut s'identifier à des sentiments et à la vie de David. On aimerait prendre exemple sur la vie de ces personnages-là, parce qu'on s'identifie à eux. David, ici, se présente à Dieu comme un être imparfait comme vous et moi. Et il nous montre comment un être imparfait vient au Seigneur dans la prière. Et comment il vient un être imparfait vient au Seigneur dans la prière? Eh bien, tout d'abord en se reconnaissant comme imparfait devant Dieu. Puis, comme on le voit dans le verset 1 à 2, comme David le fait, demander à Dieu de lui prêter oreille. Demander à Dieu de l'entendre, de lui répondre. Et ensuite, David se présente tel qu'il est à Dieu. Je suis malheureux, qu'il dit. Je suis pauvre et j'ai besoin de toi. Je suis pieux, je suis ton serviteur et j'ai confiance en toi. Et tu es mon Dieu. L'expression ici, je suis pieux, n'est pas du verset 2, n'est pas à comprendre dans le sens de je suis religieux, mais à comprendre plutôt comme une expression de dépendance à Dieu. Une expression pour dire « Ô Dieu, entends et exauce celui que tu aimes au point de l'avoir mis à part pour toi. » Et si je le refais, ce début de ce verset-là avec mes mots, bien conscient de son degré d'imperfection devant Dieu, dit à Dieu « Je suis à toi, Seigneur. » Tu sais qui je suis, tu connais mes imperfections et tu vois mon cœur sincère qui te cherche. Tu sais que j'ai toute ma confiance, toute mon espérance en toi. Alors exauce-moi, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voyons là dans cette prière, qui est une prière sans détour de David, et c'est une prière ancrée sur son réel, son instant présent, sa difficulté. Est-ce que ça vous arrive de prier ainsi, le Seigneur, le cœur ouvert, comme David, lorsque vous êtes dans des situations difficiles ou des situations qui ne s'améliorent pas pour vous? Ou de façon caricaturale, votre prière ressemblerait-il à quelque chose du genre « Seigneur, tu vois bien comme je souffre, change ma situation. Et tant que tu ne l'aurais pas changé, je ne te parle plus. » Je pense que notre vie de prière en dit long sur notre vie chrétienne. Il y a vie de prière communautaire, il y a vie de prière individuelle. Et il y a les deux. Mais je ne vais pas faire de différence entre les deux, mais c'est surtout notre vie de prière, là, c'est David avec Dieu. Sa vie de prière, lui avec le Seigneur, c'est quelque chose qui en dit long sur notre foi, notre façon de vivre avec le Seigneur. David, du verset 3 au verset 7, nous apprenons plus sur la vie de prière de David. David demande maintenant à Dieu d'agir, en s'appuyant sur le caractère de Dieu. David fait appel à Dieu, le Dieu qui est bon, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est plein d'amour, le Dieu qui exauce. Et David fonde sa prière sur le caractère qu'il connaît de Dieu et il s'adresse à Dieu en s'appuyant sur ce caractère-là. Et David demande donc quelque chose qu'il sait que seul Dieu peut faire et que personne d'autre n'est capable de faire. Et qu'est-ce qu'il demande? On le voit verset 4, il demande la grâce. Que son âme soit heureuse et soit joyeuse. On le voit verset 4, réjouis l'âme de ton serviteur. Et dans la situation de David, que David vivait, je trouve vraiment cette demande remarquable. Tout simplement parce que, là, vous allez me dire, ben, qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans cette demande? Ben, tout simplement parce que dans Noémie 8, verset 10, nous lisons ceci, « La joie du Seigneur est votre force. » Et David, dans sa situation, il avait besoin de la force. Et au lieu de demander directement la force à Dieu, comme on le verra un peu plus loin à la fin, il le demande directement, il le fait ici en demandant à Dieu de réjouir son âme. Et c'est en cela que je trouve sa demande ici vraiment remarquable. On peut se demander comment la joie peut nous renforcer, nous donner de la force en tant que chrétien. Honnêtement, je pense que la joie qui est la force spirituelle dont il est question ici, ce n'est pas quelque chose qui s'explique ou ce n'est pas quelque chose qui se démontre. C'est plutôt quelque chose qui se comprend par la pratique, qui se comprend par l'expérience que j'ai avec le Seigneur et ce que je vis avec le Seigneur. La Bible souligne la relation forte entre la joie et la vraie joie et la force spirituelle. En tout cas, pour moi, c'est souvent que quand je me sens heureux, je sens en moi quelque chose d'une sérénité. Et inversement, quand je me sens, je manque de joie, je me sens malheureux, et je ressens en moi une quiétude en moi. Et je dirais qu'un cœur joyeux, c'est une source de force dans la vie. Et ça, c'est biblique. Au sujet de la vraie joie qui procure de la force, permettez-moi de vous poser deux petites questions. Imaginez que dans votre vie, imaginez que vous avez la joie spirituelle dont parle David ici. Pensez-vous que vous serez fortifié dans votre souffrance du moment? Quand est-ce la dernière fois dans votre cœur où vous êtes vraiment réjoui de l'amour de Dieu? Avez-vous besoin du Seigneur pour remplir votre cœur de joie aujourd'hui? Comme le dit un auteur que j'avais lu, mais je n'avais pas noté son nom, mais je suis désolé, mais il n'est pas là, mais j'aurais aimé noter son nom. Il disait ceci, « La joie en Christ est une chose si réelle qu'elle transforme nos cœurs de deuil en une belle mélodie. » La grande question que cela nous renvoie est comment avoir la joie alors que les circonstances ne semblent pas terribles ou qu'elles ne s'améliorent pas. David, dans sa prière, nous donne quelques indices dans les versets 8 à 13 que j'ai résumé sous cette phrase. Se tourner vers Dieu quand les choses ne s'améliorent pas conduit à l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à lire, à relire le texte de les versets 8 à 13. « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand, tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Est-ce que vous voyez dans ces versets quelque chose de la beauté du cœur de David? La beauté de la transformation qui s'opère dans le cœur de David pendant qu'il prie. Oui, Dieu transforme nos cœurs lorsque nous adressons à lui pendant que nous prions. Rappelez-vous de la situation de David ici. Sa situation n'a pas changé depuis le début de sa prière. Ses ennemis veulent toujours le tuer. Mais que voyons-nous ici? David, dans sa prière, tourne son chant de deuil en une belle mélodie, parce que Dieu a touché son cœur pendant qu'il priait. Bien que Dieu ne l'ait pas encore sorti de sa situation dangereuse, on voit dans sa prière ici que Dieu le délivre, il délivre David de quelque chose de très profond, d'important. L'avez-vous vu de quoi il a délivré? Eh bien, moi, je vois qu'il a délivré de se replier sur lui-même. Dieu a fait tourner le regard de David vers lui, vers le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 8, où David ne se centre plus sur lui, mais il se place, verset 9, du point de vue des nations étrangères, qui voient. Et ces nations étrangères voient plusieurs dieux et voient des dieux spéciaux et victorieux. Et David arrive à la conclusion que toi seul, tu es Dieu. Vous savez, dans nos difficultés de tous les jours, dans les situations qui ne s'améliorent pas, nous n'avons que deux choix. Le premier, c'est soit d'adorer Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour se faire délivrer, pour avoir de la délivrance, soit c'est de se tourner vers nous-mêmes ou vers les leurs du monde. Et ces deux choix possibles m'amènent encore à une question. Vers qui ou vers quoi te tournes-tu pour soulager tes problèmes ? David ici s'est tourné vers Dieu, le Dieu unique. Nul n'est comme lui, nous dit le verset, nous dit-il dans le verset 8. Et au verset 9, il ajoute ceci qui faisait me dire que Dieu a travaillé son cœur, il l'a délivré de lui-même. Il s'est tourné, il dit, toutes les nations viendront se prosterner devant lui et rendre gloire à son nom. Oui, Dieu a un plan pour toutes les nations et tous les peuples. Et Dieu nous a parlé de ce plan-là. Il en a parlé depuis Abraham, dans Genèse 12. Et Jésus a communiqué aussi ce plan dans Matthieu 28. Et son plan, c'est quoi? C'est de rassembler et de racheter les peuples qui font appel à son nom, au nom de Jésus-Christ. Peu importe votre tribu, peu importe votre langue, peu importe votre nation, Dieu te sauvera si tu fais appel à lui. Non seulement pour te faire jouir du pardon des péchés et avoir une relation avec lui, mais il nous sauve afin que nous l'adorions et que nous glorifions son nom. Ce message est un message constant et cohérent dans toute la Bible. Les œuvres de Dieu, les miracles qu'il opère, les guérisons qu'il opère, le salut qu'il offre, tout ce que Dieu fait, il le fait pour l'amour de son nom, il le fait pour la gloire de son nom. Et tout cela, c'est pour nous qu'à la fin de l'histoire humaine, nous adorions Dieu et Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout cela, c'est pour que nous, les rachetés, nous chantons la gloire de Dieu. Comme il est écrit dans l'Apocalypse 13, verset, Apocalypse 15, verset 3, qui dit « Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. » Que vraiment Dieu nous inspire dans nos prières pour intercéder pour les nations, les peuples, et prier pour la croissance et la gloire de Dieu dans les nations. Le temps passe, mais j'avais une petite parenthèse là-dessus. Concrètement, comment faire? Eh bien, c'est quand on nous parle des missionnaires. Prenons le temps de prier pour eux. Quand on nous parle des missionnaires que nous connaissons, prions pour eux. Quand dans l'Église, on nous informe pour les actions des missionnaires ailleurs, prions pour eux. Voilà une façon concrète de prier pour de rentrer dans le plan de Dieu et d'apporter, prier pour la gloire de Dieu dans les nations. Le temps file. En parlant de croissance, je vais revenir au texte de David. Au verset 11, il est dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » David prie pour sa maturité spirituelle. Il demande à Dieu de dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ce qui signifie fais que mon cœur reconnaisse en permanence ton autorité sur moi. Le désir de David ici est de grandir dans la foi. Littéralement, on le prend, c'est comme si David demandait à Dieu, « Dieu, range mon cœur, unis mon cœur et qu'il craigne ton nom. » C'est comme s'il demandait, « Concentre et réunis toutes mes pensées, toutes mes aspirations, tout ce qui diverge dans ma tête, réunis-les en un seul et que je craigne ton nom. » Le craindre dans le sens de respecter et de reconnaître l'autorité de Dieu sur ma vie, sur nos vies. Nous avons là la véritable plénitude que Dieu réclame de ceux qui le servent. Et comment arriver à cela? Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle à la croissance spirituelle. Pour grandir dans la foi, nous avons à agir dans la foi. Et comment faire? Le verset suivant, le verset 13 et 12 et 13, nous donne quelques indications là-dessus. « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. » La maturité vient par l'adoration constante de Dieu. Si je le redis autrement, la piété, pas piété religieuse, piété au sens de mise à part pour dépendre de Dieu, vient en se tournant constamment vers Dieu, et cela sans duplicité, comme le montre la vie de David. David se présente à Dieu sans duplicité dans cette prière, sans tromperie, en se reconnaissant limité et pécheur. David, dans sa situation de souffrance, cherche Dieu de tout son cœur. Il s'engage à le glorifier. Il s'engage à l'honorer toujours. Et David connaît personnellement l'amour de Dieu et il a fait l'expérience du salut. Il le dit au verset 13, « Tu délivres mon âme du séjour profond des morts. » Du fond de son séjour, il sait que Dieu l'a délivré. Peut-être il fait allusion ici dans ce verset à l'exil et au retour de Babylone. Mais en tout cas, David sait que Dieu peut le délivrer, il l'a délivré de la mort. Et David est reconnaissant à Dieu. David est donc un homme béni parce que Dieu a fixé son alliance et son amour sur lui. Qu'en est-il pour vous? Avez-vous fait l'expérience de l'amour de Dieu en Christ? Le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour sauver les pécheurs, vous a-t-il sauvé? Et si c'est le cas, réjouissez-vous et rejoignez David, rejoignez les autres personnes sauvées pour rendre grâce et glorifier le nom de Jésus, pour rendre grâce et glorifier Jésus-Christ, notre Sauveur. Et si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite vraiment à considérer la question. Et le dernier point que me renvoie ce psaume et que j'aimerais rapidement partager avec vous porte sur les versets 14 et 17 qui me fait dire que se tourner vers Dieu quand les choses ne s'améliorent pas appelle à la grâce de Dieu. On peut le relire. « Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. » Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Le verset 14 ici nous précise un peu plus le cadre de ce qui ne s'améliore pas pour David. David ici est entouré d'orgueilleux, d'hommes violents et impitoyables et qui cherchent à le tuer. Et quelle en est la raison de cette hostilité? En tout cas, dans le texte, dans cette prière, David n'en parle pas. Mais quand on regarde, on sait que dans la Bible, il y a un vrai conflit entre ceux qui sont pieux, au sens mis à part pour Dieu, et ceux qui ne le sont pas. Et on le voit dans le Proverbe 29, verset 27, qui dit ceci, je ne l'ai pas affiché, « Les justes détestent les gens malhonnêtes, et les méchants détestent la conduite des hommes droits. » Cela veut dire que ceux qui suivent Jésus sont ou seront à un moment donné, haï par les méchants, c'est-à-dire ceux qui détestent la conduite des hommes droits. Et c'est de ça peut-être qui est à l'origine de la souffrance de David ici. Et tout cela simplement pour dire que parce que la société sans Dieu est rebelle contre Dieu, ben le chrétien, en attendant le retour de Christ qui va parfaire son œuvre, eh bien, le chrétien est appelé aussi à souffrir au nom de Christ. Ici, face à ses ennemis qui lui veulent la mort, David crie à Dieu en s'appuyant sur la parole de Dieu. On le voit verset 15, David cite le nom de Dieu, exactement comme Dieu s'est présenté à Moïse dans Exode 34, verset 6. David s'approprie ici le caractère de Dieu et s'approprie le Dieu de Moïse, le Dieu de la Bible, et en se focalisant sur sa miséricorde, sur sa grâce, sur sa bonté, sur sa patience, sur sa fidélité, sur son amour. Voyez-vous, toutes ces qualités, ces caractéristiques de Dieu que David cite ici, ce sont des caractères qui apaise nos âmes lorsque nous sommes entourés d'ennemis violents, des personnes impitoyables qui en veulent à nous, ou lorsque nous sommes dans une situation difficile où les choses ne s'améliorent pas. Savez-vous, savoir que Dieu possède ces caractéristiques et qu'il contrôle toutes choses et qu'il n'est jamais absent quand nous souffrons, c'est un véritable réconfort pour le croyant abattu. Et je pense que ces qualités et ce caractère de Dieu peuvent nous donner un peu de l'audace dans nos prières, de l'audace de s'approcher de Dieu, et comme David le fait, en se tournant vers Dieu et en lui demandant sa grâce. Il demande au verset 16, « Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. » David s'appuie sur Dieu, réclame la grâce de Dieu. Il le demande explicitement, et là il le demande explicitement, que Dieu lui donne de la force. Afin, et pourquoi ? Afin que ceux qui le haïssent soient confus. On va derrière toujours la gloire de Dieu. Nous avons là une prière de foi. La souffrance de David n'a pas cessé. Mais nous savons que Dieu intervient, il est là dans sa situation. Dieu, parce qu'il s'adressait à Dieu dans la prière, on a vu, Dieu a touché le cœur de David pendant qu'il priait. Il a délivré de lui-même. En tout cas, il l'a amené à poser le regard sur autre chose et arriver à dire que Dieu est grand, il est puissant. Ce que David vit dans l'attente de sa délivrance, il le vit avec humilité et d'une manière qui honore Dieu. Ma prière ce matin est que nous saisissons la profondeur de l'œuvre de Dieu dans cette prière de David. C'est une prière que j'aime vraiment lire. Pour moi, c'est comme des chansons, des fois, que j'aime écouter, réécouter, et qui me font du bien quand je suis dans des moments vraiment difficiles. Que le Saint-Esprit aussi touche et transforme nos cœurs dans les situations difficiles en attente de la délivrance du Seigneur. Et je sais que beaucoup d'entre nous vivent ces temps-ci des moments difficiles de souffrance qui durent. Et David nous invite et nous encourage à s'humilier devant Dieu, à écouter sa parole et à s'appuyer sur ses promesses, à tourner notre existence vers lui, le Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ. Je nous invite à prier. Oui, Dieu notre Père, nous te prions pour ta parole. Nous te prions de réjouir nos cœurs en toutes circonstances. Oui, Père, donne-nous en toutes circonstances, et tout particulièrement dans les moments difficiles, de pouvoir vraiment placer notre confiance en toi. Nous te prions tout spécialement ce matin pour les nations, pour le travail effectué dans les nations par les missionnaires. Nous pensons à Nathan et à sa femme et au travail spécifique des missionnaires que nous connaissons. Nous te les présentons maintenant, Père. Que ta gloire resplendisse dans toutes les nations. Nous te prions, Père, pour ton Église dans ce monde. Je prie vraiment d'affermir son témoignage et sa présence auprès de ceux qui souffrent. Nous te prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.